Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Vous savez ce que disait Boileau ? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Gabriel Attal, il faut nous éclairer ce matin. Je prends des exemples que j'ai entendus de la part des auditeurs. Pourquoi faut-il une attestation alors qu'il n'y a pas de limitation dans la durée ? La règle des 10 km, est-ce qu'elle s'applique pour un Avignonnais qui va à Nice ou un Breton qui va à Paris ? Qui a le droit de bouger et comment ? On ferme les coiffeurs, mais on ne sait pas si nos écoliers, collégiens, lycéens sont soumis correctement à des tests salivaires, dont on ne sait même pas s'ils sont tout à fait fiables. Il y a besoin de clarté ce matin, Gabriel Attal.
Je l'entends parfaitement, Alba Ventura. Et si je devais résumer les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est qu'on prend des mesures territorialisées dans des territoires où la situation est nettement plus dégradée qu'ailleurs. Et que le sens de ces mesures, c'est de dire qu'il faut encore davantage réduire ces interactions sociales, ces contacts sociaux. Et que tout ce qu'on peut faire dehors, il faut le faire dehors. Parce qu'on a appris depuis un an et depuis le début de cette crise.
On va pas vivre dehors.
On a appris sur la manière dont l'épidémie se transmet, dont le virus se transmet, dont on peut s'en protéger. On a des études, notamment celle qui a été conduite par le professeur Fontanet, qui montre que les risques de se contaminer en extérieur quand on porte le masque, quand on garde les distances, sont infiniment moins importants. Je crois que c'est 5% des contaminations que quand on est en intérieur.
Mais comment donc, on vit dehors, Gabriel Attal ?
Il ne s'agit pas de vivre dehors, mais les interactions
on
que
est en mars.
Vous devez avoir, par exemple, si la météo s'améliore, et c'est évidemment tout ce qu'on souhaite.
On
arrive dans une saison. Il vaut mieux passer un peu de temps dehors qu'en intérieur avec d'autres personnes. Voilà, c'est le sens de
mais
ces
vous
mesures.
Savez que dehors, il y a aussi des gens qui se regroupent pour boire un coup.
Mais justement,
et on n'est pas sûr qu'ils soient à 2 mètres les uns des autres.
Précisément, c'est pour ça que je vous indiquais à l'instant qu'il faut évidemment garder les gestes barrières, qu'il faut porter le masque autant que possible, qu'il faut garder les distances, qu'il faut rester dans des groupes limités, autour de 6 personnes. Mais on nous demande, et je pense que à raison, on nous demande de tenir compte des enseignements que nous avons de cette crise depuis un an. Il y a une demande très forte de territorialisation. Donc oui, ça veut dire qu'on adapte les mesures au territoire et qu'on adapte les mesures à la lumière des enseignements qu'on a tirés de cette crise et des premiers confinements.
Mais c'est bizarre
ça
quand
fait,
même.
Ça fait des changements et j'entends les questions sur la clarté. Mais je pense que l'important, c'est de tenir de tirer des enseignements de ces deux dimensions, c'est-à-dire prendre des mesures territorialisées et les adapter aux enseignements qu'on a pu tirer du début de la crise.
Et donc en quoi c'est un confinement ? C'est pas un confinement.
Moi, je suis pas un fétichiste des mots, Alba Ventura. Ce que je vous dis, c'est que la cohérence, c'est de dire qu'il faut réduire ses interactions sociales et que être à l'extérieur, c'est mieux que d'être à l'intérieur avec d'autres personnes qui ne sont pas de son foyer.
Et alors, il y avait une règle avant qui disait qu'on pouvait toujours déjeuner à la maison à 6 maxi. Est-ce que c'est toujours la règle ?
Non, pas avec des personnes qui ne sont pas de votre foyer.
Donc on n'invite plus personne à la maison.
Non, c'est ça les règles, et c'est pour ça qu'il y a une attestation, c'est pour ça qu'on invite à réduire les interactions. En revanche, si vous voulez croiser, retrouver des personnes qui ne sont pas de votre foyer, vous pouvez les croiser, les retrouver à l'extérieur.
Dehors, avec un sandwich.
Vous savez, c'est ce qui est recommandé dans beaucoup de pays européens depuis maintenant plusieurs semaines. On s'adapte, comme d'autres pays, à ce qu'on apprend de cette épidémie, dont je rappelle qu'elle a un an, et de ce virus dont je rappelle qu'il a un an.
Le moral est au plus bas, hein, c'est ce que nous dit un sondage BVA. Et hier, alors, le Premier ministre s'est beaucoup justifié de ne pas avoir reconfiné plus tôt, de ne pas avoir reconfiné au mois de janvier. Pourquoi se justifier autant ?
Parce qu'on voit bien les interventions des uns et des autres qu'on peut entendre sur les plateaux qui disent finalement qu'il aurait fallu le faire à la fin du mois de janvier.
Mais oui.
À la fin du mois de janvier, Alba Ventura, quand la question de reconfiner ou non s'est posée, elle s'est posée sur la base de projections d'épidémiologistes qui avaient été conduites. Et on a besoin d'eux pour nous éclairer, pour nous guider dans cette crise, qui indiquait qu'il y aurait une explosion des contaminations à la mi-février. Cette explosion n'a pas eu lieu.
Jusqu'en mars, il disait.
Cette explosion n'a pas eu lieu. Et quand vous regardez les projections, il y a un journaliste, Vincent Glade, qui les a remises hier sur Twitter, quand vous regardez, ils indiquaient qu'avec un confinement très strict d'un mois sur le mois de février, nous serions à la mi-mars autour de 25 000 à 30 000 contaminations par jour. À combien de contaminations par jour on est aujourd'hui ? On est autour de 27 000, alors qu'il n'y a pas eu ce confinement strict d'un mois. Donc oui, on a eu raison de ne pas confiner à la fin du mois de janvier, parce que selon les projections qui nous étaient données, il devait y avoir une explosion en février qui n'a pas eu lieu, et on devait, même avec ce confinement, se retrouver à un niveau de contamination qu'on constate aujourd'hui, sans avoir eu à fermer nos écoles.
Ça n'aurait servi à rien, en fait, c'est ce que vous nous dites.
Ce n'est pas ce que je dis, Alba Ventura. Ce que je dis, c'est que quand cette question s'est posée, elle s'est posée, encore une fois, sur la base de projections. Et ces projections ont été déjouées, mais parce que les Françaises sont mobilisées. mobilisés, parce qu'on a pris des mesures supplémentaires, mais parce qu'on a avancé le couvre-feu à 18h.
Ce pari que vous avez appelé ce trou de souris, ce petit chemin, on a bien fait
J'ai jamais employé ces termes, j'ai jamais parlé de pari. On ne fait pas de pari avec la santé des Français, on fait des choix. Et les choix, on les a toujours faits devant des faits, on ne les a pas faits devant des hypothèses. Le confinement, les mesures de restriction, elles sont très lourdes pour les Français. Moi, j'entends des gens qui me disent « Oui, aujourd'hui, en tout cas avant qu'on annonce ça, c'était des demi-mesures. » Mais pour les Français, ce n'est pas des demi-mesures d'avoir le couvre-feu à 18h ou même maintenant à 19h. Ce n'est pas des demi-mesures d'avoir des centres commerciaux qui sont fermés, de devoir télétravailler dès qu'on le peut. Et donc, il faut prendre des mesures proportionnées de manière pragmatique et territorialisée, et c'est ce qu'on fait.
Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il y a au bout des 4 semaines ?
On espère une diminution de la situation épidémique. On espère voir la situation et la pression sur nos services hospitaliers baisser. Et on espère, du coup, qu'on pourra relâcher un certain nombre de restrictions. C'est l'objectif. Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'espère ? On l'espère parce qu'on prend ces mesures et que, comme toutes les mesures qu'on a prises depuis le début de cette crise, les Français vont les respecter. Mais aussi parce que la vaccination, c'est un grand progrès qui va nous permettre d'alléger la pression sur l'hôpital en limitant le nombre de personnes qui font des formes graves.
Je voulais revenir sur les cas énoncés tout à l'heure par les auditeurs et revenir sur le cas des commerces notamment, donc retour de la fermeture des commerces non essentiels. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux commerçants pour aménager des horaires ou respecter des jauges ou respecter les gestes barrières. Je pense aux coiffeurs. Enfin, chez un coiffeur, pardon, mais on n'est pas face à face et en plus on a le masque. Donc,
je vais vous dire, Alba Ventura, évidemment qu'on fait confiance à tous les professionnels en France pour adapter, pour faire des protocoles sanitaires. Ils l'ont fait depuis le début de cette crise, ils ont fait beaucoup d'efforts. Quand vous devez limiter les interactions dans des lieux clos, vous devez fermer un certain nombre de lieux. C'est difficile pour les personnes concernées. Elles seront évidemment indemnisées comme elles l'ont été en novembre avec le Fonds de solidarité. Et je peux vous dire qu'elles ont bien vu au mois de novembre, au mois de décembre, qu'elles recevaient les aides. Vous évoquez le cas des coiffeurs spécifiquement. Les coiffeurs pourront rester ouverts, vous l'avez dit, il y a des conditions qui sont particulières.
Les coiffeurs pourront rester ouverts ?
Oui, les coiffeurs pourront rester ouverts, vous l'avez dit, il y a un protocole sanitaire particulier qui a été mis en place, et il y a un décret qui va être présenté qui indiquera quels sont les lieux, quels sont les commerces qui peuvent rester ouverts et ceux qui doivent fermer, et il indiquera notamment pour la question des coiffeurs, ils peuvent rester ouverts. On cherchera évidemment avec eux toujours les manières d'améliorer encore le protocole sanitaire et les règles pour limiter les transmissions.
Mais ça vaut pour coiffeurs, esthétiques, bar à ongles ?
Je vous dis qu'il y aura une liste qui va être faite, mais encore une fois, Alba Ventura, c'est toujours difficile quand vous devez choisir de fermer un certain nombre de lieux. Parce qu'encore une fois, quand je vous dis que la cohérence, c'est de dire qu'on se contamine moins quand on est en extérieur, il y a une cohérence malheureusement qui n'a pas changé, c'est que les risques de contamination en intérieur sont beaucoup plus importants, notamment quand on ne porte pas le masque, et même quand on le porte, malheureusement, en intérieur, il y a des risques. Et donc, il faut limiter les lieux où on se rend compte.
Mais voilà. Est-ce que c'est plus dangereux d'aller chez le fleuriste que chez le coiffeur ?
Je ne rentre pas là-dedans. Un fleuriste, par ailleurs, les commerces pourront vendre en click and collect, comme on dit, à l'extérieur de leur boutique. Évidemment, tout ça, tous ces enseignements qu'on a tirés, tout ce qu'on a appris collectivement dans les deux premiers confinements, on va pouvoir le mettre en place dans cette nouvelle séquence qui s'ouvre.
Parlons des tests maintenant. Martin Hirsch était dans ce studio mercredi. Il proposait de faire des tests, par exemple, avant d'aller faire ses courses. On se dit, tiens, le week-end de Pâques approche, faire un test avant d'aller à la messe, mais bon, ça vaut pour la synagogue ou la mosquée. Pourquoi on ne met pas en place ce genre de protocole ?
Les tests ont été considérablement développés en France. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous faire tester avec un test antigénique.
Mais on l'oblige pas.
Dans une pharmacie, par exemple, et vous pouvez avoir le résultat en 15 minutes. On va développer les autotests aussi. Évidemment, tout ça se déploie. Après, il y aura un enjeu, c'est quand on pourra alléger un certain nombre de restrictions, rouvrir un certain nombre de lieux, se posera la question de l'accès à ces lieux et du fait de potentiellement les conditionner à un test négatif qui aura été fait avant. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment, évidemment, en parallèle avec les membres du gouvernement.
Le Premier ministre a appelé hier à plus de télétravail, au moins 4 jours sur 5. Est-ce que vous allez sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu ?
Il faut continuer à augmenter le recours au télétravail. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y avait une vraie baisse par rapport au mois de novembre, où ça avait beaucoup chuté. Et malheureusement, on a vu qu'il y avait plus de difficultés à avoir recours au télétravail fortement ces dernières semaines. Et ces
Donc, sanctions
mois. Donc, on va augmenter les contrôles, on va augmenter les sanctions pour garantir que, quand on peut télétravailler, on télétravaille, que les entreprises laissent télétravailler leurs salariés qui peuvent télétravailler.
Quelles sanctions ?
Elisabeth Borne, ma collègue ministre du Travail, s'exprimera très prochainement pour donner les détails de tout cela. Mais encore une fois, il faut limiter nos interactions en intérieur. On sait que le travail, c'est un lieu où on peut se contaminer, notamment dans les cantines d'entreprise. Et donc, tout ça va être préciser.
Gabriel Attal, la vaccination, puisque la campagne va reprendre avec AstraZeneca, quelqu'un qui refuse le vaccin AstraZeneca, est-ce qu'il perd sa place ? Ou est-ce qu'on lui trouve un autre vaccin ?
Quand on vous propose un vaccin, c'est que le vaccin est indiqué pour vous.
Donc il n'a pas le choix.
Il y a la Haute Autorité de Santé qui remet des recommandations d'utilisation sur les vaccins. Si on vous propose un vaccin, c'est que c'est le vaccin le mieux indiqué pour vous. Donc il n'y a pas de raison de le refuser. Moi, j'entends les questions de confiance.
Notre sondage BVA, 44% seulement des gens font confiance à AstraZeneca.
J'entends qu'il y a des questions de confiance qui se posent d'ailleurs là aussi en France et dans d'autres pays européens qui sont confrontés à la même situation. Et donc oui, il y a un travail à mener pour regagner la confiance sur le vaccin AstraZeneca. On en est parfaitement conscient. D'ailleurs, le Premier ministre va se faire vacciner lui-même aujourd'hui pour montrer que c'est un vaccin sûr et efficace. C'est ce qu'a redit hier l'Agence européenne du médicament, c'est ce que disent les agences de santé françaises. On a besoin du vaccin.
Et vous allez vous
faire
vacciner ?
C'est la sortie de crise, le vaccin. C'est ce qui nous permettra de sortir de cette crise. C'est essentiel que les Français se fassent vacciner.
Vous allez vous faire vacciner ?
Moi, j'ai toujours dit que, comme tous les membres du gouvernement, j'attendrai mon tour. Vous savez, on était très sensibles au fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de passe-droit. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est que si on constate qu'il y a un vrai problème de confiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, que c'est utile, que c'est considéré comme utile que je me fasse vacciner, moi, j'ai proposé de le faire, évidemment.
AstraZeneca. Juste une dernière chose, est-ce que vous prévoyez de vacciner davantage dans les zones en tension ?
Ce qu'on a fait depuis le début de cette crise, c'est que lorsqu'il y a des zones où la situation épidémique est plus dégradée, effectivement, on fait en sorte de concentrer la vaccination davantage dans ces zones. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on va retirer des vaccins à certains territoires pour en donner à d'autres. Il y a des rendez-vous qui ont été pris, des centaines de milliers de rendez-vous qui ont été pris. Ils seront évidemment tenus. Les vaccins, ils continuent à arriver. J'entends parfaitement qu'il y a une frustration. Moi, je connais des Français qui ont plus de 75 ans, qui sont prioritaires depuis janvier, qui n'ont toujours pas pu être vaccinés. Ils le seront dans les prochaines semaines. Objectif, 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril. Et on va y arriver.
Merci beaucoup, Gabriel Attal.
Gabriel Attal qui annonce sur RTL une hausse des contrôles et des sanctions pour le télétravail et par ailleurs les coiffeurs qui vont donc pouvoir rester ouverts avec des protocoles renforcés. Pardonnez-moi, je vous rappelle que nous serons à 8h20 avec Alain Fischer qui est le président du Conseil d'orientation de la...